Ce texte où la mère, les frères et sœurs de Jésus veulent le voir et où Jésus les envoie balader très proprement est un texte qui évidemment plaît bien aux protestants parce qu'ils y voient des scuds désagréables envers les catholiques. D'abord parce qu'il y a une remise en cause de Marie qui est très claire. Marie se fait effectivement éjectée par le Christ lui-même. Et puis également, autre pierre dans le jardin des protestants, c'est qu'il y a question des frères et des sœurs de Jésus. Alors vous savez que les catholiques disent que Jésus n'a eu ni frère ni sœur, et les protestants militent pour dire qu'il en a eu. Eh bien, je suis désolé si vous voulez utiliser ce texte-là dans vos polémiques, ça ne fonctionne pas du tout de cette manière-là. D'abord, vous pouvez regarder, et assez facilement, vous verrez que ce texte est même choisi par de nombreux catholiques comme étant un texte, justement, exaltant les qualités de Marie, et en disant, ben, précisément, ce texte nous montre que Marie a été choisie comme objet de dévotion, non pas parce qu'elle était la mère biologique de Jésus, mais à cause de sa qualité de foi, de ses qualités spirituelles, et à cause de son obéissance. Et que précisément, l'adoration donc de Marie ne tient pas à son statut de mère, mais à son statut de croyante. Voilà, donc vous êtes déjà bien reparti dans l'autre sens. Et puis quant aux frères et sœurs de Jésus, vous savez que certains disent qu'on peut entendre frère au sens cousin ou plus éloigné, d'autres disent pas du tout, mais que dans un cas comme dans l'autre, ça n'a rigoureusement aucune importance. Que Jésus ait eu ou non des frères ou des sœurs ne change absolument rien, ni à sa naissance, ni à son message, ni à sa mort, ni à sa résurrection. Par conséquent, la chose est plus complexe, mais vous allez voir que le sujet n'est pas pour autant enterré. En effet, le sens général de cette affaire, on le comprend bien, c'est que ce qui compte avant tout, ce ne sont pas les liens du sang, mais c'est la dimension spirituelle. Et je pense qu'effectivement, c'est là un message constant de l'Évangile, de dire que l'on n'est pas chrétien par naissance, mais que c'est un choix personnel. C'est-à-dire qu'on ne naît pas chrétien, mais on le devient. Et ça, c'est important de le rappeler, parce que d'abord, c'était une révolution par rapport au judaïsme qui précédait. Dans le judaïsme, on est juif de père en fils, à l'époque de Jésus, maintenant de mère en enfant. Mais en tout cas, dans le judaïsme, être juif, c'est appartenir à une lignée, à une descendance, une généalogie. Et voilà que Jésus, dans ce passage et dans bien d'autres, dit la question, ce n'est pas d'être dans une lignée biologique, mais la question, c'est d'adhérer soi-même à quelque chose. Et que ainsi, Jésus, même s'il n'a eu aucun enfant, eh bien, il a fait, nous pouvons, nous, être les enfants de Dieu, du Dieu de Jésus-Christ, quand nous nous considérons comme tels, c'est-à-dire qu'il y a une dimension d'adoption. Alors, vous me direz que cela, c'est à peu près évident pour vous, mais je pense que c'est bien de le rappeler. D'abord parce que nous pratiquons dans notre Église le baptême d'enfants. Et là, on voit que, en chassant le naturel, il revient assez facilement au galop. On a beau dire être chrétien, c'est le choisir. Quand on baptise un enfant, un certain nombre de gens disent « Ah ben voilà, il est devenu chrétien ». Je dis non, on ne devient pas chrétien par son baptême d'enfant. Le baptême d'enfant, et nous en aurons un tout à l'heure, c'est des parents qui disent « Nous croyons que Dieu accueille cet enfant, nous croyons qu'il l'aime et nous disons qu'il est bienvenu dans l'Église ». Mais être bienvenu quelque part ne veut pas dire qu'on adhère à ce qui s'y passe, ni que l'on choisisse soi-même d'affirmer sa place dans ce lieu. Alors donc, ce n'est pas par le baptême que l'on devient chrétien. On devient chrétien quand on le dit et quand on le souhaite, et ça c'est important de le dire. Et puis également, il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup de gens parmi nous qui sont chrétiens de famille, je dirais, ou qui sont protestants parce que leurs parents l'étaient, leurs grands-parents l'étaient, etc. Cela est sympathique et je suis très heureux pour vous si vous avez des parents, des grands-parents ou des arrière-grands-parents protestants ou chrétiens. Et même si en plus vous avez des ancêtres qui ont été aux galères, c'est extraordinaire pour vous, j'en suis très heureux. Mais je m'en fiche, et Dieu s'en fiche, voilà. Parce que qu'est-ce que ça change que vous ayez des ancêtres jusqu'à la Réforme, ou que hier, vous ayez découvert l'Évangile et que vous disiez « Oui, Jésus-Christ est mon Seigneur », qui est plus chrétien que l'autre? Qui est plus, entre guillemets, protestant que l'autre? Et donc, je pense que nous devons faire attention que notre religion ne devienne pas une sorte de pharisaïsme. Et ne deviennent pas justement une chose qui se transmet de parents en enfants comme une sorte de bien de famille. Mais de bien rappeler que l'important, c'est le choix personnel, c'est l'adhésion personnelle, et qu'être chrétien, c'est une façon de vivre. Alors je vous ai dit, on voit cela partout dans l'Évangile, et des mises en garde contre cela sont nombreuses, depuis Jean-Baptiste, qui dans sa prédication tense les juifs de l'époque en leur disant « Ne vous contentez pas de dire « Nous avons Abraham pour père » parce que moi je vous dis, Dieu s'il le veut, même de ses pierres, il peut faire des fils. » Et donc c'est pas la question d'avoir ou pas Abraham pour père. La question, dit-il, c'est de commettre ou non la justice et de commettre ou non l'iniquité. Et puis également, Jésus redira la même chose à propos des descendants d'Abraham dans l'évangile de Jean. Et donc oui, on devient chrétien, et cela est important plus que l'on pense. D'abord, cela peut, et c'est plus délicat, mettre un petit peu en cause les liens du sang. Évidemment, dans les églises, on prêche l'importance de la famille, et on prêche les 10 commandements, et qu'il faut honorer son père et sa mère, mais néanmoins, on dit aussi, à chaque mariage, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à son conjoint. Et je crois qu'il y a là quelque chose d'assez important, qui est qu'il faut un jour ou l'autre devenir adulte. Et il faut un jour ou l'autre avoir le courage de dire « c'est ce que je crois, moi ». Parce que, en tant que pasteur, j'allais dire j'en ai un peu assez, d'entendre des gens dire « Ah, c'est très bien tout ce que vous dites, mais vous comprenez, je ne peux pas venir, ma famille ne comprendrait pas. » Mais alors zut, on fait quoi? On fait les choses pour faire plaisir à papa et maman? Jusqu'à quel âge, hein? Et on fait les choses pour ne pas blesser son frère, son cousin, etc. Mais jusqu'à quand? Et quand aurez-vous le courage de dire « C'est moi qui décide de ma vie ?» Et je crois qu'il y a là, dans ces propos de l'Évangile, quelque chose qui vraiment incite la personne à dire « Ayez le courage d'être qui vous êtes. Ayez le courage d'assumer vos choix, vos croyances, vos positions, vos convictions. Ayez le courage d'être vous-même, parce que sinon vous ne serez jamais rien. » Alors je ne veux pas, effectivement, je vous ai dit, comprenez ce que je veux dire. Je ne veux pas dire que la famille n'est rien, ni qu'il faille n'avoir aucune précaution à l'égard de ses proches, de ceux que l'on aime. Mais néanmoins, je pense que l'Évangile est une parole de liberté. Et elle nous invite à être libres. Donc on est libre par rapport à Dieu, on est libre par rapport à notre Église, par rapport à ce que dit notre Église, que l'on aime ou qu'on l'aime pas, on est libre par rapport à ça, on est soi-même, et on n'est jamais obligé de croire ni comme ses parents, ni comme sa famille, ni même comme l'Église à laquelle nous appartenons, parce qu'on a le droit d'avoir sa propre opinion. Et je suis heureux d'ailleurs que, même si les médias ont tendance à dire « tous les protestants croient que » ou « les protestants sont pour ceci ou pour cela », non, l'Église en tant qu'institution se positionne, mais chacun de nous avons notre propre position à nous, et on ne peut pas parler au nom de tous les protestants. D'ailleurs, notre Église ne le fait jamais. L'Église décide ce qu'on peut faire ou pas faire dans l'Église, mais ce sont les médias qui, évidemment, veulent généraliser. Et donc oui, c'est chacun à sa liberté. Ça, on en est bien content, mais on a aussi, je crois que l'Évangile nous libère aussi de tout ce qui nous enferme et nous empêche d'évoluer et de grandir. Elle nous libère de notre passé, elle nous libère de notre péché, elle nous libère de notre culpabilité. Elle nous dit « Vous pouvez être un être neuf et aujourd'hui commence le reste de votre vie ». C'est-à-dire, vous êtes ici dans une vie nouvelle. Ce que vous avez fait avant, je m'en fiche, c'est vous. Et je crois que l'Évangile nous libère aussi des poids des familles quand ils deviennent mortifères. Et on peut redécouvrir le plaisir d'être dans un lieu ou dans une famille quand on est aimé pour ce que l'on est et non pas pour le mimétisme que l'on affiche par rapport à cela. Ben oui, de toute façon, c'est le bon sens. Sinon, si on faisait toujours la même chose que ses parents, on serait encore dans des cavernes en train de se taper dessus avec des gourdins parce que celui qui a inventé le feu, ses parents lui ont dit « c'est une diablerie, c'est beaucoup mieux de manger la viande crue ». Bon, donc, voilà, il faut changer. Et si Luther et Calvin avaient voulu faire plaisir à leur famille, ils n'auraient jamais fait la réforme, mais ils seraient restés pour ne surtout pas faire de vagues, ils seraient restés à prêcher les indulgences. Et si les chrétiens en France sont devenus chrétiens, c'est qu'ils ont eu le courage de l'être. Sinon, on serait encore en train de cueillir du gui avec des serpents en or dans les chênes et de sacrifier des petits garçons, je dirais, au pied dans les forêts des Carnutes. Bon, donc heureusement qu'un jour ou l'autre, on a le droit d'être soi-même. Alors, c'est important, mais en même temps, ce n'est pas qu'une mise en garde. Il y a aussi, je crois, dans ces propos de Jésus, une vraie bonne nouvelle. C'est pas pour dire, voilà, vous n'avez plus de famille, mais de dire, vous avez une nouvelle famille. Parce que Jésus dit, certes, il envoie balader ses frères et sœurs et sa mère de sang, mais il dit, voici ma mère, mes frères et mes sœurs. C'est-à-dire qu'il y a aussi des communautés dans lesquelles nous pouvons entrer. Et il y a une bonne nouvelle, c'est qu'il y a une communauté des croyants qui est une vraie famille. Et ça aussi, il est bon de le rappeler, si vous vous dites chrétien, je l'espère pour vous, c'est une chose très bien, eh bien, vous êtes frères et sœurs en Jésus-Christ. Oui, vous êtes frères et sœurs en Jésus-Christ. Et j'aimerais que les croyants de ce monde forment une vraie famille. C'est-à-dire qu'il y ait une confiance mutuelle, une fraternité, une amitié, une gentillesse mutuelle. Et de ce côté-là, je suis convaincu que nous avons aussi des progrès à faire. Et que par conséquent, l'Église, ce n'est pas, je dirais, le McDrive, vous savez, où chacun va chercher à manger et puis on repart le plus vite possible, si même possible, sans sortir de sa voiture. Ça évite de rencontrer des gens, c'est quand même plus agréable. Eh bien, heureusement que l'Église n'est pas ça. Et ce que je dis là, c'était pas la peine de venir, vous pourrez l'entendre dans la semaine sur Internet, chez vous, sans rencontrer personne. Eh bien, je crois que dans le culte, il y a justement une dimension communautaire. Et que dans le culte, il y a le moment où le pasteur parle, il y a le moment où vous tous, vous chantez ensemble, et il y a aussi le moment où on est à la sortie, je dirais, sur le trottoir. Et à ce moment-là, eh bien, il faut veiller à ce que ce soit un moment, je dirais, de fraternité. Donc ceux qui sont sur le trottoir avec vous, ce ne sont pas des étrangers, ce sont vos frères et vos sœurs. Et je ne peux qu'inviter à dire, essayez de finalement, ouvrez-vous sur le trottoir, discutez, soyez fraternels et familiaux. C'est parce que cette sortie du culte a au moins autant d'importance que ce qui s'y passe. Je connais d'ailleurs certaines personnes, je ne dirai pas les noms, qui viennent juste pour la sortie. Alors, faut pas le faire, c'est très mal. Mais néanmoins, ils se disent, ben, finalement, le moment le plus sympathique du culte, c'est la sortie. Donc, ils se débrouillent, ils arrivent à 11h30, et comme ça, ils évitent une prédication interminable et la collecte. Mais néanmoins, il ne faut pas le faire non plus, mais c'est quand même, ça montre qu'il y a là quelque chose d'important. Mais en même temps, ce texte nous montre aussi, je crois, les dangers de ceux qui se croient chrétiens parce qu'ils sont de famille chrétienne. C'est-à-dire que ce texte de Jésus nous montre les erreurs à éviter. Et en effet, cette famille biologique de Jésus est vraiment très arrogante. Il se comporte très mal. Et donc, voyons un peu ces travers qui nous menacent tous. D'abord, ils pensent qu'ils ont priorité et qu'ils veulent passer avant les autres. Ils disent « Allons, allons, c'est à nous, nous d'abord. » Eh bien, première mise en garde, la réponse de Jésus, c'est « Non ». Vous êtes peut-être de famille chrétienne, d'ascendance, de ceci, cela, eh bien, vous n'avez pas priorité sur ceux qui sont en train de découvrir l'Évangile. Rappelons-le. Deuxièmement, ils commettent une erreur théologique très grave, c'est qu'ils demandent à Jésus de venir vers eux. Là, c'est intéressant. ils auraient pu y aller, mais non. De loin, ils envoient quelqu'un en disant « Dis donc, tu devrais venir, il y a ta mère et tes frères qui t'attendent. » Eh bien ça, c'est faux aussi, parce que le but de la vie chrétienne, c'est pas de demander au Christ de venir à nous, c'est d'aller nous-mêmes vers le Christ, d'aller nous-mêmes vers le Seigneur. Et on n'a pas besoin de valets ou d'intermédiaires pour essayer de faire venir Dieu à nous. Et ça, c'est le danger aussi de des pratiquants. Ils disent, oh ben moi j'ai un curé, j'ai un pasteur, je le sonne et puis il me fait venir le bon Dieu à domicile en quelque sorte. Hein. Eh bien, ça ne se passe pas comme ça. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle notre Église refuse, normalement, de faire des baptêmes à domicile. Vous savez, si vous voulez baptiser un enfant, vous venez ici. Parce que sinon, c'est facile, on dit, ben voilà, dites donc, Jésus, là, on a besoin de toi. Alors on fait venir le curé, le pasteur, tout ça chez soi, et ça évite d'avoir à se déranger. Eh bien non, le but, c'est d'aller vers le Christ, et non pas d'attendre qu'il vienne à nous en pensant que tout est dû. Enfin, ces braves, cette famille du Christ, trouvent que ces nouveaux venus, finalement, sont plutôt dérangeants. Ils trouvent qu'ils font obstacle entre Dieu et eux. Ça, c'est vrai aussi. Et c'est aussi quelque chose qui nous menace dans nos paroisses, où finalement, on aimerait bien rester entre nous, entre les gens du bon vieux temps. Et quand il y a des nouveaux, ou quand il y a des nouveautés, on se dit « Oh, quelle horreur, c'est plus comme avant, c'est pas comme j'aimais, c'est pas les gens que je connaissais. » Et on trouve que tous ces nouveaux, tous ces gens que je ne connais pas, cette nouveauté, tout ça, on trouve que ça fait obstacle. Eh bien, c'est un danger. Je crois que nous devons admettre que finalement, le but, c'est pas de rester sans bouger là où l'on est, en déplorant que Jésus s'éloigne ou que l'Église s'éloigne, c'est d'être dans le mouvement de l'Église et d'être dans le mouvement du Christ, et c'est d'avancer et de ne pas considérer que les nouveaux venus soient un dérangement ou un obstacle, au contraire. Vous savez, il y a un petit dessin humoristique qui est passé il n'y a pas très longtemps, où on voit un pasteur qui dit « Qui est pour le changement ?» Alors tout le monde « Oui, moi, moi !» « Qui est prêt à changer ?» Et tout le monde baisse la tête, parce que dans le fond, c'est toujours le même problème. Et tous mes collègues pasteurs le disent. Quand ils arrivent dans une paroisse, on leur dit « Oh, il faudrait faire venir du monde, il faudrait faire de l'accueil, faire des nouveaux. » « Ah bon, très bien. » Et puis quand ils commencent à faire venir du monde, eh bien le conseil dit « Oh là là, on ne s'y retrouve plus, c'est très dérangeant tout ça, et surtout, restons entre nous. » Eh bien, c'est un danger, vous voyez, qui n'est pas neuf, puisque du temps de Jésus, il y avait déjà ça, et les frères et sœurs de Jésus trouvent que tous ces nouveaux qui écoutent Jésus sont plutôt dérangeants. Et puis enfin, autre danger aussi, c'est de considérer que l'Évangile, eh bien, il est là pour être prêché aux autres et qu'il concerne les autres et que ce n'est pas pour se remettre en cause soi-même. C'est-à-dire que Jésus prêche à ceux qui sont assis devant lui et puis les autres ont tendance à considérer qu'eux ne sont pas concernés par ça, hein, parce que la prédication du Christ, c'est pour les nouveaux. Donc les vieux paroissiens disent « C'est très bien, faites des réunions d'évangélisation, enseignez l'Évangile aux enfants, à ceux qui ne connaissent pas. Mais moi, je n'ai plus besoin de ça, puisque je connais déjà tout. » Alors là, c'est très dangereux, évidemment. Et même quand on prêche, vous savez que la tendance de chacun, c'est de toujours penser que quand le pasteur est sévère, de toujours penser que ça touche les autres. Et on se dit malignement, « Ah, ça c'est bien fait, j'espère que Madame Machin entend bien ce que le pasteur est en train de dire, parce que ça lui ferait du bien. » Eh bien, non, la prédication du Christ, elle n'est pas pour les autres, elle est pour soi. Alors la réponse de Jésus, donc elle est claire, elle dit, « Voici ma mère, voici mes frères, voici mes sœurs, et dit-il, ce sont ceux qui font la volonté de mon Père. » Alors ça c'est juste. Ce ne sont pas ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume de Dieu, mais ceux qui font la volonté de mon Père. Alors là, c'est très protestant, et ça me plaît, parce que ça montre que l'important, ce n'est pas l'appartenance à une église, ce n'est pas la pratique, mais l'important, c'est ce que l'on vit concrètement. Alors là, je suis bien d'accord, c'est vrai. L'important, ce n'est pas les prières, les actes religieux, les baptêmes, les confirmations, les machins. L'important, c'est « Mais comment vous vivez dans le monde? C'est ce que vous vivez concrètement les uns avec les autres. C'est ça la religion de Jésus-Christ. Parce que l'évangile, c'est quelque chose à vivre. C'est pas une idéologie morte ou une appartenance à un club désuet. Ça me convient parce qu'il y a une relativisation de l'Église. Mais en même temps, ça me pose problème. Parce que, en disant ça, je suis en train de m'éloigner du message fondamental de la Réforme qui s'est opposé à la religion des œuvres. Et finalement, en disant l'important, c'est ce que l'on fait, eh bien, je milite pour la théologie de Thomas d'Aquin et finalement la théologie du Moyen-Âge prêchée par l'Église romaine. Ce sont les œuvres qui comptent et vous serez jugés sur vos œuvres. Alors, vous voyez que c'est compliqué. Est-ce qu'on est sauvé par les œuvres ou est-ce qu'on est sauvé par la foi? Et quelle méthode, finalement, quelle méthode obtenir? Est-ce que nous sommes jugés sur ce que nous faisons, sur notre pratique, sur notre religion? Et c'est vrai que tout le catholicisme est basé, enfin était basé plutôt à un moment donné, sur une religion du faire. La religion, c'est de pratiquer. La religion, c'est de faire, de donner à l'Église, de faire le bien, d'éviter de faire le mal. Et on est jugé sur le faire. Alors que la Réforme a dit que c'était le contraire. Et que finalement, c'est la foi qui compte. Et que si on est sauvé, c'est par grâce. Et tout à fait indépendamment de quelque pratique que ce soit. Donc finalement, ce texte-là, vous voyez, défend une théologie des œuvres, une théologie très fondamentalement, je dirais, catholique au sens médiéval du terme. C'est en agissant comme chrétien que l'on est chrétien. Mais il y a un renversement inattendu. C'est que Jésus, certes, dit « Mon frère, ma mère, ma sœur, ce sont ceux qui font la volonté de mon Père », mais nous dit le texte, en faisant ça, il montre les gens qui étaient, il montre de la main la foule qui était là. Et la foule, elle faisait quoi? Eh bien, elle faisait rien. C'est ça qui est étonnant. La foule, on nous dit, ils étaient assis et ils écoutaient. Donc, ils faisaient rien. Rien du tout. Ils n'étaient pas en train de donner de l'argent aux pauvres. Ils n'étaient pas en train de soulager la misère du monde. Ils n'étaient pas en train de pardonner à ceux qui les avaient offensés. Ils sont assis et ils écoutent. Alors tout à coup, je me dis, tiens, c'est très bizarre ça. Un renversement. La foule ne fait rien. Alors qu'est-ce que la volonté du Père? Est-ce que Jésus nous dirait que faire la volonté du Père, ce n'est pas du tout faire le bien dans le monde, comme je vous l'ai dit tout à l'heure et vous y avez cru? Faire la volonté du Père, ce serait non pas agir, mais écouter. Tiens, ça c'est curieux, parce que là du coup, ça devient un boulet rouge contre les réformateurs. Je vous ai dit que ce texte était, je dirais, du mal de tout le monde. Les réformateurs qui se sont opposés, vous savez, aux ordres monastiques. C'est-à-dire les moines qui se disent, ben nous, on se met dans un monastère et on prie. Voilà. Et les réformateurs ont dit, mais c'est une horreur, ça. C'est une horreur. Prétendre rester tout le temps dans la prière, si vous n'agissez pas dans le monde, vous n'êtes pas des bons chrétiens. Et donc, là, le texte dit le contraire. Il dit, la volonté du Père, c'est de s'asseoir et d'écouter. C'est tout. Donc, par conséquent, les réformateurs ont eu tort, sans doute, de condamner un peu vite les actes, les ordres contemplatifs. Parce que ce texte nous dit et nous rappelle que certes, l'action est importante, mais qu'elle n'est pas tout. La contemplation aussi est importante. Et là, je prêcherai bien aussi aux protestants, parce que les protestants oublient trop souvent la dimension de la prière et de la vie spirituelle. Vous cherchez un lieu pour faire une retraite, vous en trouvez 100 dans l'Église catholique, et chez les protestants, aucun. Ah si, il y a les diaconesses à Versailles, et c'est tout pour toute la France. Et donc, les protestants négligent cette dimension de la prière et de la vie spirituelle, cette dimension de l'écoute, cette dimension de l'adoration, vous voyez, cette dimension de la contemplation. Où est-elle dans notre foi? Les protestants courent toujours le danger de tomber dans une foi desséchée. Alors certes, ils sont honnêtes, ils sont rigoureux, ils sont bien comme il faut, tout ça, mais où est l'écoute? Et ça, c'est grave. parce que je sais que dans la piété protestante, il y a une très grande place pour la prière, pour la dimension religieuse et spirituelle. Mais à force de dire que c'est personnel, que c'est de la pudeur et que les protestants n'en parlent pas, on a une très grosse difficulté à le transmettre. J'ai fait récemment le service funèbre d'un grand protestant, je dirais, de quelqu'un qui avait une importance assez considérable dans la société, dans son métier, etc. Et j'ai révélé, comme un secret que personne n'imaginait possible, j'ai révélé au cours du service funèbre que cet homme priait. Voilà, ça a été un bouleversement. Ses enfants ne le savaient pas. Ses proches ne le savaient pas. Ses collaborateurs ne le savaient pas. Et on a dit, cet homme-là, qui était un grand homme, qui a fait trembler, je dirais, des empires financiers, eh bien, quand il était en difficulté, il pleurait et il priait. C'est extraordinaire, mais on ne le sait pas et on ne le dit pas. Ce qui fait qu'on a l'impression que voilà, être protestant, c'est être bien comme il faut et tout ça. Eh bien, n'oublions pas que même si on ne l'affiche pas, n'oublions pas cette dimension essentielle de la contemplation, ces dimensions essentielles de la prière et d'être capable parfois de dire agissons moins mais agissons mieux et prenons le temps de nous asseoir pour écouter le Seigneur, tout simplement. De nous asseoir pour écouter le Seigneur. Sinon, on risque de retomber dans une religion des œuvres, on risque de se vider de sa substance, de son carburant, de l'essence même de sa vie, et on risque de devenir un rameau stérile, incapable de transmettre quoi que ce soit à ses proches ou à ses enfants. On avait la même chose, vous savez, avec Marthe et Marie, ces deux femmes. Marthe, qui est dans le fer, qui fait la cuisine, la vaisselle, les machins, les bonnes actions, et Marie, qui s'assied et qui écoute. Et Jésus dit, Marthe, Marthe, elle s'agite, elle fait des tas de trucs très bien, mais Marie a choisi la bonne part, c'est-à-dire elle écoute. Parce que si on écoute, on s'enrichit, on se remplit de bonnes questions, on fait le plein de valeurs qui ont toujours tendance à s'émousser et à se perdre, et on fait le plein d'amour et de grâce, et que tout ce plein ne peut ensuite que rejaillir sur les autres, mais qu'il ne faut pas oublier de faire ce ressourcement de temps en temps. Alors voilà, et puis on pourrait aussi continuer à appliquer cela, je dirais, au sens de la prière. Les mauvais enfants, ce sont ceux qui parlent, qui demandent, qui réclament, qui exigent des droits, qui veulent ceci et qui veulent cela. Et les bons enfants, ce sont ceux qui s'écoutent, qui s'asseyent et qui écoutent. Et dans la prière, c'est la même chose, vous disais-je. La bonne prière, c'est pas de réclamer, de dire, et dis donc Dieu, donne-moi ceci, donne-moi cela, avec en plus le danger de la prière chrétienne, de demander une sorte de passe-droit à Dieu. On dit, Seigneur, il y a plein de gens qui meurent de maladie, mais épargne-moi cela à moi, parce que moi je suis ton petit chouchou, tu me connais, n'est-ce pas, hein? Y a des tas de gens qui ont des problèmes, mais Seigneur, pas à moi. Sous-entendu, les autres, je m'en fiche. Il peut y avoir des accidents de la route, des cancers, des morts, des prématurés, des morts subites, de tout ce que vous voulez, mais on demande à Dieu, pas à moi. On est comme les frères et sœurs de Jésus. Seigneur, moi, tu m'aimes bien, tu sais, je suis ton fils chéri, donne-moi ci, donne-moi ça. Eh bien, ce n'est pas comme ça que ça marche. Parce que la prière, ce n'est pas de réclamer, de demander et de vouloir des passe-droits de la part de Dieu, mais la prière, c'est s'asseoir et écouter. S'asseoir et écouter. Quant à Marie, là-dedans, eh bien, je vous disais, elle semble malmenée au départ. Mais en fait, effectivement, les bons auteurs disent qu'elle n'est pas nécessairement rejetée, mais que justement, tout ce que je viens vous dire fait de Marie l'exemple même du bon croyant. Et ça, les commentateurs catholiques ne s'y sont pas trompés et ils n'ont pas tort. Parce que justement, Marie, dans l'Évangile, ne fait rien. C'est vrai, la mère de Jésus, elle ne fait rien. Elle ne fait rien. Mais elle est assise et elle écoute. On nous dit plusieurs fois dans l'Évangile, Marie gardait toutes ces choses dans son cœur. De même, au pied de la croix, le Stabat Mater, Marie était là. Et elle écoute, elle regarde. C'est-à-dire que Marie, elle est l'image même de la contemplation. Donc vous voyez que ce n'est pas certain que ce texte maltraite autant que ce que l'on pense cette pauvre mère de Jésus, mais en tout cas, je crois que Jésus remet les choses en place. Et ce qui est important de dire, c'est que, effectivement, si Marie peut être réhabilitée, c'est que le fait, quand même, d'être de la famille biologique de Jésus n'est pas non plus nécessairement un obstacle pour être disciple. Et que même si vous avez des ancêtres aux galères, c'est pas pour autant que vous êtes forcément de mauvais chrétiens, c'est ça. Et que par conséquent, je tiens à dire, même si Marie est malmenée au départ, elle est réhabilitée. Mais elle est réhabilitée pas toute seule, c'est-à-dire avec tous ceux qui se considèrent comme les frères et sœurs de Jésus-Christ, c'est-à-dire avec tous ceux qui sont là et qui ont dans leur cœur le désir de commettre la justice et de se mettre à l'écoute du Seigneur et de se remplir d'une parole de grâce, d'amour, de pardon, de tolérance, de paix et d'espérance, parce que quand on se remplit de toutes ces bonnes choses, eh bien d'abord on est joyeux, on est libre, on est heureux et on devient soi-même un redistributeur pour le monde entier de grâce, d'amour, de paix et d'espérance. Amen.